Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 9, drame dans un cimetière. À 9h, cette nuit-là, Tom et Sid montèrent se coucher comme d'habitude. Ils firent leur prière et Sid ne tarda pas à s'endormir. Tom resta éveillé et attendit. Il bouillait d'impatience. À un moment où il croyait que le jour allait se lever, il entendit la pendule sonner 10h. C'était désespérant. Il s'énervait. Il aurait voulu bouger, mais il avait peur de réveiller Sid. Et il se tint quoi ? Les yeux grands ouverts dans le noir. Le silence était sinistre. Petit à petit, dans l'obscurité, de légers bruits se firent entendre. Le tic-tac de la pendule devint perceptible. Les meubles et l'escalier craquèrent. De toute évidence, les fantômes étaient en promenade. Un ronflement régulier provenait de la chambre de Tante Polly. Un grillon, impossible à repérer, émit son grésillement monotone. À l'intérieur du mur, à la tête de son lit, Tom entendit le cri sinistre d'un Death Watch, qui lui fit dresser les cheveux sur la tête. Cela signifiait que les jours de quelqu'un étaient comptés. Dans le lointain, l'aboiement d'un chien éveilla un autre aboiement, plus lointain encore. Tom n'en pouvait plus. Il se dit que le temps avait dû faire place à l'éternité. Malgré tous ses efforts, il commença à somnoler. La pendule sonna 11h, mais il ne l'entendit pas. Dans un demi-sommeil, il crut percevoir le miaulement lugubre d'un chat. Une fenêtre s'ouvrit. On entendit. « Encore cette sale bête !» Contre le mur du hangar à bois de sa tante, Tom entendit un bruit de bouteille cassée qui acheva de le réveiller. Une minute après, il était habillé, passait par la fenêtre et rampait à quatre pattes le long du toit de la pantie. En chemin, il miaula une ou deux fois avec précaution. Puis il passa sur le toit de la pantie et sauta à terre. Clobbery Finn l'attendait avec son chat mort. Les deux gamins disparurent dans l'obscurité. Une demi-heure après, ils foulaient du pied les hautes herbes du cimetière. C'était un cimetière à l'ancienne mode de l'Ouest. Il occupait le sommet d'une colline à environ 2,5 km du village. Il était entouré d'une clôture irrégulière de planches mal équarries, penchées tantôt vers le dedans, tantôt vers le dehors. Mais jamais droite. De mauvaises herbes prospéraient sur toute son étendue. Toutes les tombes anciennes s'étaient effondrées. Il n'y avait plus une seule pierre tombale intacte. Des planches à moitié pourries se dressaient de travers sur les tombes, cherchaient un point d'appui qu'elles ne trouvaient pas. Sur ces panneaux de bois, jadis, la mention « à la mémoire de » avait bien été peinte, mais sur la plupart d'entre eux, il n'aurait plus été possible de la déchiffrer, même en plein jour. Les arbres bruissaient sous la caresse du vent. Tom croyait entendre la plainte des âmes des morts, dérangées dans leur repos. Tout décontenancé, les deux gamins, parlant à voix basse, n'échangeaient que de rares réflexions. En un tel endroit, à part ailleurs, le profond silence et l'ambiance d'austérité les paralysaient. Ils trouvèrent la tombe fraîchement creusée qu'ils cherchaient et se dissimulèrent dans un bouquet d'ormes à proximité. Ils attendirent quelques instants qui lui parurent interminables. Le ululement d'un chat-huant troubla le silence. Tom n'en pouvait plus. Il étouffait du besoin de parler. Il chuchota. « À qui ? Est-ce que tu crois que ça leur fait plaisir, aux morts, que nous soyons là ?»« Je n'en sais rien. » répondit Huckleberry sur le même ton. « Et je voudrais bien savoir, c'est impressionnant. Tu parles ?» Il y eut un silence, puis Tom reprit. « Dis donc, Huck, crois-tu que le vieux Williams entend ce que nous disons ?»« Bien sûr qu'il nous entend, en tout cas son âme. » »« Oui, j'aurais dû dire Monsieur Williams, mais je n'ai pas voulu le froisser. Tout le monde l'appelle le vieux. » On ne fait jamais assez attention à ce qu'on dit des morts, Tom. La réflexion de Huck jeta un froid. Le silence régna de nouveau. Tout à coup, Tom saisit le bras de son camarade. « Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Huck, le cœur battant. « Chut ! Tiens, on entend quelque chose. Tu n'entends pas ?»« Si, ils viennent, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire ? » ?»«
C'est pas. » »«
Tu crois qu'ils nous voient ?»« Pas de doute. Ils voient dans le noir comme les chats. Je voudrais bien être ailleurs, moi. »
« Allons, du cran. Je ne crois pas qu'ils nous en veuillent. Nous ne faisons rien de mal.
Peut-être que si nous ne bougeons pas, ils ne nous remarqueront pas. »
« Je veux bien essayer de rester tranquille, Tom, mais je ne réponds de rien. Je tremble comme une feuille. »
« Chut, écoute !» Les deux gamins retinrent leur respiration. On entendait un vague murmure de voix venant de l'autre bout du cimetière.
« Regarde là-bas !» murmura Tom. « Qu'est-ce que c'est ?»«
Ça doit être un feu follet. »«
Oh, Tom, j'ai peur !»
Plusieurs formes indistinctes s'approchaient dans l'obscurité. L'une d'elles balançait une lanterne de fer blanc qui projetait sur le sol d'innombrables petites lumières. Huck reprit.
« Pour sûr, ce sont les diables. Ils sont trois. Tom, nous sommes fichus. Est-ce que tu sais tes prières ?»
« Oui, mais ne t'en fais donc pas. Ils ne nous feront pas de mal.
Tiens, je vais me coucher par terre et faire semblant de dormir. Et puis... »«
Chut, tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Huck ?»«
Ce sont des vivants.
En tout cas, il y en a un. Je reconnais la voix de Muff Potter. »«
Sans blague. »«
Si, je la connais bien.
Ne remue pas. Ne bouge pas.
Il n'est pas en état de nous voir. Cette vieille fripouille. » Il doit être saoul comme d'habitude.
Entendu, je ne bouge pas.
Et voilà qu'ils s'arrêtent. Ils sont en panne.
Trouveront, trouveront pas.
Les voilà qui se rapprochent.
Maintenant, ils brûlent.
Là, c'est froid.
Là, ils brûlent.
Cette fois-ci, ils y sont.
Dis donc, Huck, il y a une autre voix qui ne m'est pas inconnue, celle de Joe l'Indien.
C'est ma voix vraie. C'est bien ce métis de malheur. J'aimerais mieux avoir affaire à de vrais diables. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ?
Les deux gamins se turent, car les trois hommes étaient maintenant près de la tombe et se trouvaient ainsi à quelques pas de leur cachette.
C'est ici, dit la troisième voix, dont le propriétaire, soulevant la lanterne, s'éclaira le visage.
C'était le jeune docteur Robinson.
Potter et Joe l'Indien portait un brancard sur lequel il y avait une corde et deux bêches. Ils déposèrent leur fardeau et commencèrent à creuser la terre. Le docteur mit la lanterne sur la tombe, à l'endroit de la tête du mort, et vint s'asseoir, le dos à l'un des ormes. Il était si près des enfants que ceux-ci auraient pu le toucher.
« Dépêchons les gars, dit-il, la lune peut se montrer d'un instant à l'autre. »
Les deux hommes marmonnèrent une vague réponse et continuèrent à creuser. On n'entendait plus que le bruit monotone des bêches remuant la terre et le gravier. Finalement, l'un des outils heurta le cercueil avec un bruit sourd. Et, une minute ou deux après, les deux hommes le sortirent de terre. De leur bêche, ils forcèrent le couvercle, retirèrent le corps qu'ils laissèrent brutalement retomber sur le sol. La lune émergea de derrière un nuage et éclaira en plein la face du mort. Ils mirent le cadavre sur la civière, l'enveloppèrent d'une couverture et ficelèrent le tout. Potter tira de sa poche un couteau à cran d'arrêt, coupa l'extrémité de la corde et dit « Docteur, le travail est fait. Maintenant, vous n'avez plus qu'à nous aligner un autre billet de $5. Sinon, on vous laisse vous débrouiller avec le Maccabée. »
Voilà qui est parlé, dit Joe l'Indien.
Voyons, qu'est-ce que ça signifie ? S'écria le docteur. Vous m'avez demandé de vous payer d'avance. Je vous ai payé.
Sans doute. Mais vous avez fait mieux que ça, répliqua Joe l'Indien, en s'avançant vers le docteur qui s'était levé.
Il y a 5 ans, vous m'avez chassé de la cuisine de votre père. Un soir que j'étais venu vous demander quelque chose à manger. Et vous m'avez dit que si j'étais là,
ce n'était sûrement pas pour faire de bonne besogne. Et quand je vous ai promis qu'un jour j'aurais ma revanche, même si pour cela je devais attendre 100 ans, votre père m'a fait mettre en prison pour vagabondage. Vous croyez que j'ai oublié ? Ce n'est pas pour rien que j'ai du sang indien dans les veines. Maintenant, je vous tiens et nous allons régler nos comptes. » Il menaçait le docteur, lui mettant son poing dans la figure. Le docteur riposta d'un crochet qui mit le drôle par terre. Potter lâcha le couteau et s'écria « Hé là ! Ne touchez pas au copain !» Il empoigna le docteur à bras le corps. Les deux hommes engagèrent sur l'herbe une lutte farouche, martelant le sol de leurs talons. Joe l'Indien s'était relevé. Ses yeux flamboyaient de colère. Il ramassa le couteau de Potter et, tournant comme une bête fauve autour des deux combattants, guetta l'occasion d'intervenir. Tout à coup, le docteur se dégagea, s'empara d'une pièce de bois provenant de la tombe de Williams et emporta à Potter un coup qui l'étendit sur le sol. Alors, Joe l'Indien bondit, plongea le couteau jusqu'à la garde dans la poitrine du jeune homme, qui chancela et s'écroula sur Potter en le couvrant de sang. À ce moment, la lune disparut derrière les nuages et cacha ce spectacle aux yeux des gamins qui, épouvantés, s'enfuirent dans l'obscurité de toute la vitesse de leurs jambes. Quand la lune reparut, l'Indien regardait les deux corps étendus à ses pieds. Le docteur murmura quelques syllabes inarticulées. Son corps fut agité d'un frisson et il rendit le dernier soupir. « Notre compte est réglé, » murmura le métis. « Le diable t'emporte. » Il vida les poches du cadavre, plaça le poignard fatal dans la main droite de Potter, puis alla s'asseoir sur le cercueil ouvert. 3, 4, 5 minutes s'écoulèrent. Potter commença à remuer, puis à gémir. Sa main se referma sur le poignard. Il le leva en l'air, le regarda d'un œil terne et, avec un tremblement, le laissa retomber. Puis il se dressa sur son séant, repoussant le cadavre et d'un air hébété, regarda autour de lui. Son regard rencontra celui de Joe l'Indien. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » demanda-t-il. « Sale affaire, » répondit Joe sans s'émouvoir. « Qu'est-ce qui t'a pris ? Moi ? Ce n'est pas moi qui fais cela. » « Ne nie pas, ça ne sert à rien. » Potter se mit à frissonner et devint blanc comme un linge. « Je croyais pourtant bien que je n'étais plus saoul. Je n'aurais pas dû boire cette nuit, mais j'ai encore la tête lourde. Pire que quand nous sommes partis. Je n'y suis plus du tout. Je ne peux pas me rappeler ce qui est arrivé. Dis-moi, Joe, vrai de vrai, mon vieux, est-ce que c'est moi qui ai fait ça ? Joe, je n'ai jamais voulu le faire. Je le jure sur l'honneur. Dis-moi comment ça s'est passé. C'est affreux. Un homme si jeune et si plein d'avenir. Eh bien voilà. Vous vous battiez tous les deux. Il a pris ce bout de bois et il t'en a assené un coup qui t'a flanqué par terre. Tu t'es relevé en titubant, comme tu as pu. Tu as attrapé ton couteau. Tu le lui as enfoncé dans le corps juste au moment où il te frappait une seconde fois. Et sous le choc, tu es resté sans connaissance jusqu'à maintenant. Oh, je ne savais pas ce que je faisais. Que je meurs si je ne dis pas la vérité. Tout ça, c'est la faute au whisky et à l'état dans lequel j'étais. Jamais de ma vie, jusqu'à maintenant, je ne me suis servi d'une arme. Je me suis battu, oui, mais jamais avec des armes. Ça, tout le monde peut le dire. Joe, il ne faut pas raconter ça. Tu es un bon type, Joe. Ne raconte pas ça. J'ai toujours eu de la sympathie pour toi. J'ai toujours pris ton parti. Tu te souviens ? Tu ne vas pas raconter ça, dit Joe. Le malheureux tomba à genoux devant le misérable meurtrier et il le supplia en joignant les mains. Non, tu as toujours été un bon copain, meuf Potter, et je ne te dénoncerai pas. Je ne suis pas un faux frère. Tu es un chic type, Joe. Rien que pour ça, je te bénirai jusqu'à la fin de mes jours. Et Potter fondit en larmes. « Allons, ça suffit. Ce n'est pas le moment de pleurnicher. Allons-nous-en, chacun de notre côté, toi par ici et moi par là. Grouille-toi et surtout ne laisse pas de traces derrière. Potter s'éloigna, lentement d'abord, et bientôt se mit à courir. Le métis le suivit des yeux et murmura. S'il est aussi abruti du coup qu'il a reçu et aussi saoul du rhum qu'il a bu, qu'il en a l'air, il ne pensera plus à son couteau avant qu'il ne soit trop loin pour oser revenir le chercher tout seul. Poule mouillée va. Quelques minutes plus tard, le docteur assassiné, le cadavre de Williams dans sa couverture, le cercueil abandonné et la tombe ouverte n'avaient plus que la lune pour témoin. Le silence régnait à nouveau dans le cimetière.